Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Comment lutter contre les conflits fonciers en milieu rural? On en parle aujourd'hui avec Maître Eric Vouvou, avocat au barreau du Congo central. Maître Eric, bonjour. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Nous aurons également tout à l'heure, tout au long de cette émission, Monsieur Simplex Malembe, qui est expert en gestion des conflits fonciers. Dans la deuxième partie de ce programme, nous allons parler des violations du code de la route sur les artères de Kinshasa, comment lutter contre ces phénomènes. On en parle avec Valemanga, expert en transport multimodal. Des questions et préoccupations, le standard est déjà ouvert. Composez le 099 706 9941. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Jean-Claude Siala à la mise en onde. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Radio Okapi à Kananga, Malandi Washinga avec Okapi Service et Écho d'économie. Venez nombreux pour participer à l'enregistrement des deux grandes émissions publiques dans l'amphithéâtre du complexe scolaire La Reconnaissance sur Tibanda. Au programme, l'électrification de la ville, les routes, la production agricole, l'entrepreneuriat de jeunes et des femmes. Rendez-vous les lundis 3 et le mercredi 5 juin des 10h à 12h pour des moments d'échange inoubliables sur les problèmes qui vous préoccupent. Acteurs de la société civile, associations des jeunes et des femmes, entrepreneurs, leaders d'opinion, éducateurs, acteurs politiques et opérateurs économiques, vous êtes tous le bienvenu. Retrouvez Jody Daniel Kachama et toute l'équipe d'Okapi Service pour des moments d'échange inoubliables. N'oubliez pas, l'entrée est libre. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bien, nous allons à présent parler de la lutte contre les conflits fonciers en milieu rural. Vous savez, la cession des terres à des particuliers sans respect de la réglementation foncière menace la paix et la cohésion des communautés dans plusieurs régions de la RDC. Les agriculteurs n'ont plus accès et n'ont plus assez d'espace pour cultiver, ce qui génère des conflits et l'insécurité aussi, comme le cas de Mubondo, oblige les cultivateurs à abandonner les champs. Cela est souvent à la base, cela provoque l'insécurité alimentaire et les déplacements massifs des populations locales, d'après la Confédération nationale des producteurs agricoles de la RDC. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ces conflits fonciers et en prévenir d'autres? On en parle dans cette émission avec Maître Eric Vouvou, avocat au barreau du Congo central. Maître, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody Daniel Kachama.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est souvent à la base des conflits fonciers en milieu rural?
De manière générale, les conflits fonciers en milieu rural sont occasionnés par le non-respect des règles relatives à l'attribution des concessions foncières dans les terres rurales, sur les terres rurales.
Voilà, vous dites que c'est souvent attribué à des problèmes des terres, c'est ça?
Non, je disais que les conflits fonciers sont occasionnés par le non-respect, l'irrespect donc des normes établies dans l'acquisition de concessions en terre rurale.
D'accord. Et quelles sont ces normes qui ne sont pas du tout respectées?
La clé de voûte en tout cela, et à laquelle les gens ne prêtent vraiment pas très attention, à laquelle les gens se dérobent, c'est l'enquête préalable, l'enquête des vacances des terres. C'est cela l'épine dorsale qui est censée d'ailleurs protéger les communautés locales, mais les gens n'y font pas très attention, les gens s'y dérobent, ça crée des remous, mais aussi il y a un facteur aussi, l'augmentation de la valeur économique de la terre avec le temps, et la pression démographique accentue les conflits dans la mesure où ceux qui ont conclu avec les communautés locales aujourd'hui peuvent faire un revirement dans 5-10 ans pour rejeter en bloc ceux qu'ils ont eux-mêmes conclus ou ce qui a été conclu par leurs ascendants lorsqu'il s'agit des terres communautaires, des terres.
Voilà, donc il y a beaucoup de conflits à cause du non-respect des normes dans les domaines en ce qui concerne l'acquisition des terres. On a appris qu'il y a des particuliers, par exemple, dans les en milieu rural, qui ont des grands hectares, qui ne sont peut-être pas exploités, mais ils les gardent pour eux, et alors que les cultivateurs n'ont plus assez d'espace pour faire les champs.
Exactement. Au sein des communautés locales, il y a des concessionnaires qui ont effectivement des grandes étendues de terres, qu'ils peinent même à mettre en valeur efficacement, qu'ils peinent à exploiter, suite à plusieurs circonstances liées à tantôt à l'économie, tantôt même à plusieurs autres facteurs. Mais il y a les communautés locales qui peinent à avoir des terres, comme vous l'avez dit, et qui généralement d'ailleurs prennent d'assaut ces concessions. Ils s'y installent, ils s'y imposent, ils se disent, bon, ce sont des biens de nos ancêtres. Concession ou pas concession, l'État a concédé ou que sais-je encore, mais nous, on y revient, on n'est pas nos cultures, quoi. Mmh. Ça, les concessionnaires souvent ne digèrent pas aussi parce qu'ils estiment avoir les titres d'occupation et ils trouvent que c'est une incursion qu'ils ne peuvent pas observer et applaudir et ça fait des conflits. Alors qu'ils sont censés cohabiter communauté locale et à terreur, entre guillemets, de toutes ces terres au sein du patrimoine socio-culturel des villages.
Voilà. Et alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut pour résoudre ces genres de conflits qui créent souvent même l'insécurité alimentaire? Il y a également l'insécurité qui occasionne le déplacement massif des populations.
Tout à fait. Ce genre de conflit ne se résolve mieux que par le dialogue, d'abord, entre parties prenantes, parce que les recours à des mécanismes justiciers, c'est bien, c'est institutionnel, mais ça n'a toujours pas été de nature à apporter la paix, dans la mesure où les réactions parfois musclées et fortes du pouvoir judiciaire peuvent envenimer la situation face à la communauté. Et comme on dit, hein, la foule n'a pas d'âme. La foule n'a pas d'âme. Une communauté constituée de plusieurs individus avec chacun son éducation, son appréhension des choses, ça peut parfois dégénérer. Donc voilà pourquoi moi je pense que la meilleure façon de résoudre ces conflits lorsqu'ils surviennent, c'est les dialogues entre les parties prenantes. Mais une façon de les prévenir en amont, c'est de respecter les règles établies en cette matière-là dans l'attribution des concessions. J'ai tantôt parlé de l'enquête préalable qui en fait doit être fait, doit être sanctionnée par un procès verbal dans lequel on recense toutes les personnes se trouvant sur le fonds demandé. Toutes les personnes qui exercent certaines activités agricoles, pastorales ou que sais-je encore, la description des lieux, l'inventaire des biens qui s'y trouvent, l'audition des personnes pouvant formuler des réclamations ou des observations. Là, si c'est fait en amont, ça contribue à limiter les risques de conflits en aval lorsque la terre aura été concédée par l'État qui en est propriétaire à des acquéreurs autre que les personnes faisant partie de la communauté locale.
Bien, nous allons accueillir Monsieur Simplex Malembe, qui est expert en gestion des conflits fonciers et chargé des plaidoyers à la Confédération nationale des producteurs agricoles de la RDC, CONAPAC. Monsieur Simplex, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous parlons des conflits fonciers en milieu rural. Alors, quel état des lieux vous faites par rapport à ces conflits? Quel est l'état des lieux de la situation?
Je salue d'abord tous les auditeurs qui nous suivent maintenant. Je vais commencer par une vue plus globale. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre des terres. La guerre entre la Palestine et Israël, c'est une guerre des terres. La guerre entre les conflits qui existent entre les États-Unis, le Mexique, tous les États voisins là-bas, c'est une guerre des terres. La guerre qui existe dans le Sahel, entre ce qu'il convient d'appeler les éleveurs et les agriculteurs, c'est une
c'est
guerre,
toujours,
une guerre des terres.
Des terres.
Et les guerres qui existent au niveau de l'Afrique centrale, ce sont des guerres des terres. Et la guerre qui existe au niveau de la RDC avec ses voisins, ce sont des guerres des terres. Les guerres qui existent à l'est du pays, de la RDC, la guerre ou les conflits qui a surgi au niveau de Kwango-Kwilu, c'est une guerre des terres. Les conflits qui existent entre les Bambole et au niveau de Kisangani là-bas, c'est une guerre des terres. Et donc, il y a une autre guerre qui ne dit pas son nom, une guerre intellectuelle, c'est la guerre entre la loi foncière en RDC et les pratiques coutumières en matière de gestion des terres. C'est aussi une autre guerre. Et donc, lorsqu'on parle de terres rurales en RDC, et les conflits qui existent au niveau des terres rurales, c'est une guerre multiforme, c'est-à-dire une guerre complexe. Et la RDC, avec les slogans que les scientifiques ont cultivés à travers nos mentalités, c'est une exposition. Nous nous exposons nous-mêmes à la convoitise de tous les pays qui n'ont pas assez de terres. Lorsque vous dites nous avons 2 345 000 km²
alors que les autres,
n'en ont pas.
Oui, n'en ont pas.
Nous suscitons de l'envie, de la convoitise.
La convoitise des autres.
Des autres. Et en plus de ça, ce sont des terres qui ne sont pas suffisamment exploitées. Et donc, ça nous expose à ce qu'il convient d'appeler des conflits. Alors, dans nos milieux ruraux, les conflits sont en train de se vivre de multiples manières, de différentes manières. Première manifestation, c'est la gestion de ce qu'il convient d'appeler les comportements des chefs coutumiers, c'est-à-dire les propriétaires terriens, comme on les appelle, face à ce qu'il convient de qualifier de le goût du lucre. C'est-à-dire les chefs coutumiers que nous avons maintenant, comme ils n'ont pas d'autres revenus, tout ce qu'ils ont comme moyen de survivre,
c'est la terre. C'est ils ne font que vendre la terre à plusieurs
toits. Il ne faut que vendre
à plusieurs personnes à la fois.
Voilà.
La même terre là.
La même terre. C'est ce qui fait qu'il y a une sorte de superposition des gens. Vous vendez la même terre aujourd'hui. Demain, je viens, j'achète la même terre. Quelqu'un d'autre viendra après-demain. Et ça crée des conflits. Deuxième élément, c'est que les services attitrés, les services formels, c'est-à-dire les cadastres, les conservateurs de titres immobiliers, se mêlent aussi dans la danse. Et eux aussi ne sont pas mieux que les chefs coutumiers, parfois en matière de gestion. Eux aussi falsifient, et ainsi de suite. Ce qui fait que nous avons affaire à une gestion désorganisée du foncier. Et au niveau de la RDC, ceux qui ont fait des études pensent que la plupart des conflits qui sont portés au niveau des cours et tribunaux, en tout cas 70%, ce sont des conflits fonciers. Donc nous avons affaire à un pays qui est en transition entre ce qu'il convient d'appeler « est-ce qu'on élimine les chefs coutumiers ?» Non, parce qu'ils sont immortels. On ne peut pas les éliminer. Est-ce qu'on élimine les services des cadastres et les autres? Non plus, on ne peut pas les éliminer. Il faut une sorte de cohabitation, une sorte de cohabitation pacifique entre les deux services, entre les deux modes d'occupation des terres, le mode traditionnel, coutumier, et le mode moderne qui est géré par ceux qui se disent avoir étudié. Et c'est ça le problème que nous avons. Et la loi congolaise n'arrive pas à trouver le juste équilibre. Le juste équilibre, c'est-à-dire quelle est la part des responsabilités qu'on réserve aux coutumiers et quelle est la part des responsabilités qu'on réserve à l'administration formelle de la gestion des terres. C'est ça le gros problème que nous avons en RDC. Depuis l'époque coloniale où le roi Léopold II a dit que le Congo lui appartenait en tant qu'une propriété privée.
Oui.
Et nous sommes sur cette logique depuis très longtemps. Alors, la loi, les Congolais ont voulu à l'indépendance, ils ont voulu corriger cette incohérence-là. Nous avons pris ce qu'ils ont appelé la loi Bakajika, et puis on a pris la loi de 79. Depuis tout ce temps-là, nous sommes dans un processus qui tâtonne. Maintenant, là, au niveau de la RDC, il y a ce qu'on appelle la réforme de la loi foncière en RDC. C'est un processus qui date de 2011. Je répète encore,
de 2011. Alors, un instant, on va accueillir quelques auditeurs et je reviens à vous. On va accueillir Charles Kisimba de Lumbashi et Chumba Ngoy de Kindu. Charles, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi aux invités.
Quelle est votre question par rapport au conflit foncier en milieu rural?
En tout cas, messieurs les journalistes, le mal est profond. Ce que nous regrettons et ce que nous devrons d'abord savoir aussi est que toutes nos terres en milieu rural ont été héritées de l'ancêtre au petit-fils de manière orale, de la tradition orale. Alors, si vous partez très loin, vous allez comprendre avec moi que même les propriétaires de toutes ces terres-là n'en disposent pas même les documents témoignant que ces terres-là leur appartiennent. Voilà, et bien à ce niveau-là, les modes d'acquisition déjà fait défaut. Comparativement avec les milieux urbains, la situation a quand même évolué. Au jour d'aujourd'hui, la population et est en possession de ces documents-là, de ces documents qui leur témoignent que la terre leur appartient. Vous allez voir même, on est en train d'ériger des bornes, mais en milieu rural, même des bornes font toujours défaut. Alors, la population souffre. Moi, j'aimerais asker que l'État puisse quand même ouvrir l'œil, car nous assistons à des morts qui ne disent pas son nom. Que l'État souffre et que la population puisse quand même être aidée par l'État pour que l'État arrive à recenser toute cette population-là. Si on a fait des siècles et des siècles dans une insomnie comme ça, que la population puisse être recensée avec les documents mis à jour témoignant qu'ils sont réellement propriétaires, parce que c'est des bouches à l'oreille.
À l'oreille. D'accord, merci. Merci, Charles.
La nation ne peut pas évoluer avec cette tradition-là orale. Vous savez, pour terminer, les trois problèmes majeurs que pose la tradition orale, les problèmes d'interprétation, les problèmes de chronologie, les problèmes de témoins, alors c'est compliqué. Nous devons quand même évoluer. Nous sommes en plein 21e siècle.
D'accord. Il faut des documents au lieu de s'en tenir à la tradition orale. Chumba Ngoy, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Et bonjour également aux invités.
On vous écoute.
Oui, d'entrée de jeu, moi, je précise vraiment en passant que c'est le gouvernement ou l'État congolais qui est lui-même à la base des différents conflits fonciers en République démocratique du Congo. Nous avons les exemples ici, précisément dans les territoires de Kibombo, où le 23 mai 2023, il y a eu mort d'homme entre le village Okasa et le village Osang. Alors, c'est toujours la problématique de la gestion des terres. On ne parvient pas vraiment à connaître si il existe réellement une loi qui détermine la gestion des terres entre les chefs coutumiers et l'État congolais. Vous voyez, et l'absence surtout de délimitation claire avec les bornes Le chef cuisinier se base surtout sur les limites naturelles. Vous allez voir, tantôt ce sont les montagnes, ce sont les rivières, ainsi de suite. Donc, les limites naturelles, au lieu de fixer les bornes, de mettre vraiment une délimitation claire. Vous voyez? Donc, l'État congolais lui-même est à la base de tous les conflits fonciers en République démocratique du Congo. C'est ça que je voulais vraiment apporter comme contribution.
Merci beaucoup. Clément Bétou, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Quelle est votre préoccupation, Clément?
Oui, merci beaucoup de la parole. Il y a une très grande difficulté. Comme je l'avais dit, il y a un problème trop sérieux dans la gestion des notaires. L'État congolais a présenté des insuffisances de la manière que, depuis l'époque coloniale, où il y a une libre répartition de limites, de territoires, de villages, ainsi de suite. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de garde-fous qui peuvent permettre à ces gens-là de bien vouloir respecter leurs limites. Tantôt, c'est quelqu'un qui se réveille le matin pour dire telle place, il y a peut-être de minerais, il y a peut-être telle ou telle autre activité qui peut être faite là-bas. Il s'accapare aussi de cette place-là. Et maintenant, ceux-là qui connaissaient bien que c'était notre place, se fabrique ou se transforme en milice pour commencer à s'attaquer. Il y a le sang qui a coulé, par exemple, à Bakouankenye, avec les gens de Mweka, les limites là. Mm. Mais il y a eu des conférences qu'on a eu à faire à l'époque de l'ex-président Joseph Kabila Kabange. Il y a eu des garde-fous qu'on a eu à mettre. Mais dernièrement, il y a eu encore des problèmes très sérieux. Des problèmes très sérieux. Les gens de Bakouankenye du côté Mweka ont pourchassé encore les loulous de Kassai Central. Il y a eu mort d'hommes. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que l'État congolais peut faire? Il fallait qu'on puisse avoir des lois appropriées par rapport à la gestion des notaires rurales et ainsi de suite. Sinon, si cela n'est pas fait vraiment, ils auront toujours des déplacements massifs, il y aura toujours des morts. Donc, vraiment que l'État congolais puisse prendre des dispositions utiles pour calmer cette désolation que nous sommes en train de constater, messieurs les journalistes.
Bien, merci beaucoup Clément Bétou de Kananga. Maître Eric Vouvou, votre réaction?
Merci aux auditeurs et merci à Monsieur Simplex pour son analyse très profonde et pertinente sur la question que nous sommes en train de survoler. Effectivement, l'État a une grande part de responsabilité dans ce que nous déplorons aujourd'hui, parce que la loi foncière ou dite foncière, selon les écoles, selon les cas, a fait de toutes les terres des terres domaniales. Même les terres rurales sont devenues des terres domaniales, mais il y a une disposition dans la dite loi, qui voudrait que les régimes juridiques de ces terres devraient être réglés par une ordonnance présidentielle qui tarde à venir depuis l'avènement de cette loi jusqu'à aujourd'hui. C'est là le vide juridique. Et c'est là où je suis d'accord avec M. Simplex, il dit que l'État ne trouve pas un équilibre entre l'administration et le pouvoir coutumier dans la gestion des terres. Parce qu'en fait, cette disposition-là aurait voulu ou prévoyait justement les règles du jeu en ce qui concerne les terres coutumières, les terres rurales, qu'il a plu à l'État de domanialiser. Donc, ce vide-là crée un fossé, effectivement. Et si cette ordonnance a tardé, je crois que c'est eu égard à la complexité de la question, effectivement, comme l'a dit M. Simplex. La complexité, la réforme qui a été entamée en 2011 n'a jamais abouti jusqu'à aujourd'hui, 13 ans plus tard, jour pour jour. L'État devrait faire un état des lieux, permettez la redondance, un état des lieux des affaires foncières et accélérer cette réforme pour pouvoir combler les lacunes et pour pouvoir harmoniser ce qui doit être harmonisé entre les autorités coutumières ainsi que l'administration foncière. Et les chefs coutumiers, d'ailleurs, ils ont l'obligation de veiller à la protection des espaces fonciers qui font partie des terres des communautés locales. Cette obligation découle des dispositions de la loi fixant les statuts des chefs coutumiers. C'est la loi, je crois, de, numéro 15/015 du mois d'août 2015. En tant qu'étel, en tant que protecteur des espaces fonciers qui font partie de terres des communautés locales, ils doivent disposer d'une certaine marge de manœuvre qui leur permette d'agir et ou de prendre pleinement part à la gestion des terres rurales, des terres de leur communauté. Donc il y a un travail à faire. Cette loi a montré ses limites et il faut que l'on puisse penser à la réformer pour être plus réaliste et pour juguler les différents conflits qui naissent justement de ce manque de clarté, de ce manque d'équilibre entre ce qui est recommandé en droit écrit et ce qui relève de la coutume.
D'accord. Alors, Monsieur Simplex, à vous la parole.
Il y a un processus qui date de 2011, comme on vient de le dire. Mais le processus lui-même n'arrive pas à aboutir par rapport à la complexité des intérêts des acteurs en jeu. En RDC, il y a ce qu'il convient d'appeler une école de ceux qui pensent qu'il faut de gros investissements, des investisseurs qui puissent venir pour qu'ils puissent, je m'excuse du terme, s'accaparer des terres de communautés locales. Et donc, la loi foncière aujourd'hui, elle privilégie plutôt les grands investisseurs que les petits exploitants familiaux.
Oui.
Ce qui veut dire que plus la superficie augmente, plus l'autorité compétente est ravie de la base. C'est-à-dire, par exemple, les conservateurs de titres immobiliers n'ont le droit d'octroyer un document qui va jusqu'à 9,9999 hectares. C'est-à-dire, au-delà des 10 hectares, ça ne dépend plus de lui. Lorsque ça devient plus de 10 hectares, ça devient peut-être le ministre provincial. Lorsque c'est au-delà de jusqu'à la présidence. Et que donc, quelqu'un qui a besoin d'une très grande superficie n'a pas à s'adresser aux autorités
coutumières. Non, pas du tout.
Il doit s'adresser à l'échelon supérieur.
Oui.
Or, l'échelon supérieur n'est plus à la portée des communautés locales. Ça, c'est un vice que nous devons démanteler. Et le deuxième élément, c'est de dire, actuellement, il y a ce qu'on appelle les concessions, colonialement, je dis colonialement, je l'ai dit expressément pour que les auditeurs puissent comprendre.
Oui.
Les concessions que les gens ont obtenues à l'époque coloniale, qui s'appellent Van, les Belges.
Oui.
Et ce sont des concessions.
Et ils continuent à en jouir jusqu'à aujourd'hui.
Ils continuent à en jouir jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des concessions qui ont été acquises de manière telles qu'elles ont été négociées avec nos grands-parents.
Mais là, c'est ouvert Kolofoum.
Partout en RDC. Et que donc, maintenant, les communautés locales commencent à se poser des questions pour dire quels étaient d'abord les termes de négociation, quelles étaient les limites réelles, quels sont les documents en cours et qu'est-ce que dit la loi. Et donc, il y a un processus au niveau de la Commission nationale de la réforme foncière, la CONAREF, qui est en train de faire ce qu'on appelle la revue légale des concessions foncières acquises en milieu rural. Et cette revue légale, c'est de dire, toi, mon cher journaliste, tu es le petit-fils d'un monsieur Colo qui s'appelle tel, ou toi, tu es le monsieur d'un grand monsieur qui a bénéficié de la zaïrianisation, parce que ça aussi, il faut en parler.
Oui.
Et donc, quels sont les documents que vous avez, comment vous les avez acquis, comment vous avez négocié, et ainsi de suite, pour qu'on détermine les occupations foncières rurales légales et les occupations foncières rurales traditionnelles.
Voilà.
Cela peut nous aider. Mais ça se bute à une grande difficulté parce que ceux-là qui doivent mettre à place cette loi-là, ce sont les mêmes qui sont concernés. Lorsque, par exemple, nous avons déposé la loi, les documents de la loi foncière au niveau de l'Assemblée nationale pour la législature passée, ce sont les mêmes gens qui se sentaient concernés. Lorsque vous parlez de la revue légale des concessions, ce sont les mêmes personnes qui sont
là-bas,
qui ont des concessions dans les différentes provinces.
Finalement, ils vont bloquer.
C'est pour ça qu'ils bloquent la chose.
Ils vont bloquer la chose, ça c'est sûr.
Surtout qu'ils savent que de manière légale, leur conscience leur reproche quelque chose.
Oui.
Et face à la pression de la communauté, ils se disent, mais comment je vais justifier ma présence dans cet espace-là?
Oui.
Mais au finish, nous sommes obligés parce que il y a des espaces dans lesquels ces concessionnaires-là ne savent même plus y arriver. C'est-à-dire que la communauté les attend. Il y a une sorte de lutte entre la machette et le papier.
Ah.
C'est-à-dire, la population dit, moi j'ai la machette.
Et vous, vous avez les papiers.
Vous avez les
papiers. Alors
venez,
on verra
On fait comment à ce moment-là. Vous voyez. Donc nous sommes obligés de négocier.
Oui.
Un mode de vie qui soit consensuel.
Mais quelqu'un a dit tout à l'heure, Charles, il dit souvent les gens dans nos villages, les gens ont des terres, ça se transmet, c'est la tradition orale, etc.
Oui.
D'une génération à une autre, lui propose que les gens aient des documents.
Oui.
C'est beaucoup plus sécurisant.
C'est beaucoup plus sécurisant, mais c'est parce qu'aussi le mental congolais, le mental actuel ne respecte plus la parole. Mais à l'époque, il y avait la force de la parole. Lorsque le vieux vous dit, moi je vais vous donner ma chèvre l'année prochaine, et il respecte. Même avant sa mort, il dit, nous avons une dette.
On doit donner la chèvre.
Vous devez donner la chèvre.
Le respect de la parole.
Le respect de la parole. Mais maintenant, nous sommes dans une société où, lorsque vous n'avez pas de papier, on vous dit que vous n'avez pas.
Quelqu'un peut dire quelque chose aujourd'hui et il nie demain.
Il change complètement.
Il nie demain.
Et j'ai toujours donné un exemple. Est-ce que vous savez que les juristes, aujourd'hui, la loi congolaise dit, tant que vous n'avez pas le papier de ce qu'on appelle acte de décès, j'oublie le terme, c'est que vous n'avez pas encore enterré votre père. Vous voyez jusqu'à quel niveau nous avons été falsifiés. Donc, si vous n'avez pas l'acte qui confirme que vous avez enterré votre père, c'est-à-dire que votre père est supposé être encore vivant, alors que ce sont les mêmes gens-là qui l'ont enterré.
Oui.
Donc nous sommes déjà dans une société qui est en train de se déplacer vers l'écrit. Mais l'écrit aussi ne suffit pas.
Mais on dit souvent que les paroles s'envolent,
oui.
Mais les écrits
La mémoire reste. C'est la mémoire. Ce n'est pas les écrits. Parce que même les écrits aujourd'hui, ce qui est en train de se faire aujourd'hui,
oui.
Si on doit se tenir aux écrits, qu'est-ce qu'on est en train de constater avec tout ce qu'il y a comme cadastre, tout ce qu'il y a comme titre, conservation des titres. Donc ce que nous devons restaurer le mental du respect de la parole donnée et le mental de l'honnêteté, parce que aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes, comme je le disais, devant un fait accompli. Nous avons, par exemple, il est prévu ce qu'on appelle le cadastre agricole. C'est-à-dire, on va cadastrer toutes les terres agricoles. Mais est-ce que vous pensez qu'en y allant, on ne va pas avoir besoin de la communauté? Nous sommes obligés de passer par la communauté.
Il faut coopérer avec la communauté.
Parce que c'est la communauté qui saura, non, la terre de telle commence ici.
Voici les limites.
Les limites, ça part d'ici. C'est-à-dire, on part de la parole pour faire l'écrit. Et si la parole est falsifiée, c'est que l'écrit sera falsifié. Donc, vous voyez comment la difficulté que nous avons. Donc, il y a un travail de sensibilisation, un travail de prise de conscience. Et je le dis toujours partout où je suis passé, la RDC a un problème interne, mais a aussi un défi externe. Nous avons un problème interne parce que nous avons beaucoup de terres, mais la population augmente aussi.
Ah, la croissance démographique.
La croissance démographique.
De 3%, 3,5% là, c'est beaucoup.
C'est beaucoup. Et la terre n'augmente pas.
Ah non.
Il ne faudra pas que les gens nous trompent en disant nous avons assez de terre. D'ici 50 ans, d'ici 100 ans, avec notre propre population actuelle, nous n'aurons plus assez de terre.
Et donc, les conflits vont encore se multiplier.
Vont se multiplier.
D'accord. Un instant, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons des conflits, comment lutter contre les conflits fonciers en milieu rural, comment les prévenir aussi. Nous avons en ligne Roger Marcel de Kinshasa, Tagamile Agathe de Bounia et Magloire Koulikwinja de Lubumbashi. Roger Marcel, bonjour. Quelle est votre question?
Bonjour monsieur, bonjour à maître Eric. Et bonjour à vous, Benjamin. Et ça, je dis, vous savez, la République démocratique du Congo, pourquoi à chaque fois nous disons toujours que c'est ça qui est à la base de ce que nous voulons.
Bon, Roger, on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort?
Je disais, pourquoi à tout moment on dit toujours que c'est notre État vraiment à la base de ce qui se passe vraiment dans notre pays? Si vous regardez dans la plupart dans les territoires, parce que nous, ce sont toujours nos autorités qui sont toujours à la base de ces conflits-là. Regardez, j'ai eu à lire un article dans les territoires de Fils, qui est 75% des conflits qui passent toujours au parquet, plus près de 75%. Vous allez voir que nous, on a des chefs coutumiers qui sont installés, mais les chefs coutumiers qui sont devenus des commerçants. À tout moment, ils sont là en train de vendre des terres et en qui. Il y a, si aujourd'hui ils vendent, si l'autre encore arrive, ils vendent toujours. Qui ont eu le temps de vivre quand même au village, on a toujours l'expérience de voir ce genre de choses. Et je pense qu'il y a toujours des lois qui ont été votées dans ce secteur-là. Je pense que notre État congolais pouvait quand même mettre quelque chose dans l'ordre. On dit le sol, selon la loi basique, le sol et les tout sont appartenus à l'État. Mais ce que nous, ce qui reste, c'est autre.
Regardez, bien, alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à ces conflits, pour lutter efficacement contre ces conflits, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous?
Pour lutter à ces conflits, il faut mettre de l'ordre partout. Ce n'est pas donné à chaque chef coutumier. Regardez aujourd'hui, vous voyez même les étrangers qui arrivent. Ils se précipitent directement pour vendre les terres.
D'accord, il faut mettre de l'ordre, surtout, merci. Il faut mettre de l'ordre, et beaucoup de chefs coutumiers sèment les désordres, si je comprends bien. D'accord. Tagamile Agati, vous êtes à Bounia, bonjour, quelle est votre question? Tagamile, bonjour. Il n'est plus là. Magloire Koulikwinja de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, ma radio. Bonjour, chers auditeurs.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au conflit foncier en milieu rural?
Compte tenu de cela, en tout cas, c'est une préoccupation très intéressante. Mais personnellement, je sens bien que nous tous, nous savons la manière dont les concessions rurales existent. La plupart des concessions rurales existent sans documents de vente, ni des documents cadastrales, mais surtout cela, compte tenu de la façon dont plusieurs ruraux, ou soit des plusieurs habitants qui détiennent ces concessions-là, vous allez trouver que nous tous savons les conditions dans lesquelles cette population rurale vit. Et partant de ces conditions, personnellement, moi, je suggérerais que pour mettre fin à cela, il a fallu que l'État s'implique parce que les conditions rurales ne permettent pas qu'on ait tous les documents. Je suggérerais que peut-être le gouvernement puisse s'impliquer et dépêcher une équipe de cadastre afin qu'on aille délimiter les différentes concessions et octroyer gratuitement les concessions, les actes de vente, soit les documents des cadastres qui montrent tous les limites afin que vraiment ce conflit soit délicaté. Parce qu'à un certain moment, dès qu'il y a un conflit pareil, que ce conflit soit réglé avec les documents. Parce qu'il arrive des fois que l'on fait des limites d'une manière hasardeuse. Demain, quelqu'un peut venir et déplace ses limites. En plaçant ses limites, on ne tient pas compte parce qu'il n'a aucune référence ou qui détermine les limites de ses concessions.
Exact.
En tout cas, ce sera ma contribution pour ce cas.
Bien, merci Magloire. Tagamile, vous êtes à Bounia, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tous les auditeurs et aussi à les auditeurs.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la lutte contre les conflits fonciers en milieu rural?
Cher Marcel, vous savez, cher Jody plutôt, vous savez que cette question elle est vraiment cruciale. Et même ici à Litori, je pense que les conflits fonciers qui connaissent souvent aujourd'hui aussi de l'Irou, c'est aussi dit à cette histoire, à cette matière de l'octroi illégal de terre et consorts, et c'est comme ça que une communauté s'élève contre une autre. Alors, donc, je me suis derrière les conflits précédents des autres officiers qui dit que vraiment le service de l'urbanisme, non, de,
le cadastre.
Cadastre et titre foncier.
Oui, le cadastre et la division des affaires foncières doivent vraiment apprendre à faire cette matière. On ne peut pas octroyer les terres à des personnes comme ça et vandaliser les sols de l'État, parce que mon prédécesseur a dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Alors, donc, si on veut donner le sol ou la terre à quelqu'un ou à une communauté, on doit vraiment s'assurer que cette partie que nous donnons à telle autre communauté, ça ne doit pas encore être redonnée à une autre communauté. Parce qu'on a vu ici, on a vendu le sol pour des communautés différentes, le même sol. Et c'est comme ça que ça a soulevé des problèmes et vraiment des psychoses. Ici, là, nous voyons les armes même après des crépités, justement à cause de ces problèmes.
D'accord. Donc, merci. Ça, merci beaucoup, Tagamilé. Maître Eric, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Monsieur Joudy. Je pense que le problème, il est suffisamment complexe. L'État a ses pouvoirs régaliens, c'est vrai, pour concéder les terres, mais l'État ne peut pas concéder ces terres sans les terres rurales, voudrais-je dire les terres communautaires, sans impliquer les autorités locales communautaires.
Exact.
Les services fonciers ne peuvent pas délivrer en l'occurrence un certificat d'enregistrement sans un acte qui constitue le soubassement, c'est-à-dire un acte de cession des terres par les autochtones. Mais puisque les chefs coutumiers ont l'obligation de veiller à la protection des espaces fonciers qui font partie de leur de terres de leur communauté, il faudrait que ceux-là aussi fassent preuve de responsabilité pour ne pas aliéner des terres avec de très vastes étendues au mépris même du besoin actuel et du besoin prévisible par rapport à la pression démographique. Il doit y avoir certaines limites, parce que ces communautés, à travers ces membres qui aliènent des grandes étendues des terres, vont se retrouver, comme l'a dit M. Simplex, dans 50 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, dans le besoin accru d'espace pour faire leurs agricultures et que sais-je encore. Donc il doit y avoir une certaine politique de gestion de cession des terres des communautés locales qui en amont doivent impliquer les chefs coutumiers, lesquels chefs coutumiers doivent faire preuve de sens de responsabilité pour ne pas se retrouver eux-mêmes dans le besoin. Et ensuite, les pouvoirs publics, lorsqu'ils reçoivent une demande de concession portant sur des terres coutumières, il est prévu qu'ils doivent effectuer une enquête préalable. Cette enquête, justement, a sa raison d'être. C'est celle de protéger les communautés locales en recensant préalablement ceux qui s'y trouvent. Et lors de ces recensements, on peut arriver à remarquer que les besoins démographiques la pression démographique est tellement grande qu'il n'y a pas lieu d'accorder une telle concession. Parce qu'en fait, au fiche, le dernier mot revient à l'administration foncière sur une demande des terres. Le dernier mot revient à l'administration foncière. Et donc, lorsque ces enquêtes sont menées et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas lieu de concéder une terre demandée en milieu rural par X ou par Y, l'État doit pouvoir prendre ses responsabilités pour soit ramener la demande à des proportions acceptables, afin de ne pas aussi exposer ces communautés que l'État a l'obligation de protéger, parce que pour elles-mêmes, les communautés, elles peuvent aliéner au-delà du besoin, au-delà de l'acceptable, pour besoin de lucre, et parfois même à des prix, à des valeurs tellement modiques,
oui,
dérisoires. Et cela crée des conflits même au sein des communautés lorsque ces sessions n'ont pas été inclusivement décidées par tous les membres de la communauté ou par tous les représentants de la communauté. Donc, d'un côté, il faut que les autorités coutumières reviennent à la conscience pour protéger les patrimoines fonciers, pour constater et être convaincus de la pression démographique et prendre conscience que demain ou après-demain, nous n'aurons plus de terres arables, nous n'aurons plus de terres pastorales, nous n'aurons plus de terres pour la survie des populations locales.
Ouais.
Et que donc,
d'accord.
Et que donc, même dans ces sessions, il faut faire preuve de responsabilité et de raisonnabilité. Alors, du côté de l'administration, comme je l'ai dit, être regardant par rapport au texte et par rapport à la procédure d'acquisition. Aujourd'hui, on constate que parfois les enquêtes de vacances n'existent que de nom. Vous verrez X ou Y avec une grande concession sans qu'il n'y ait eu une enquête préalable des vacances, alors que c'est un impératif établi par la loi foncière ou dite foncière. Bon, heureusement que la loi elle-même sanctionne des nullités un contrat de concession conclu en violation de certaines dispositions impératives. Mais est-ce que dans la pratique on le remarque? Non, dans la pratique on ne le sent pas. On remarque plutôt qu'il y a des concessionnaires qui poussent comme des champignons, qui tombent comme un cheveu dans la soupe, qui s'obtiennent des titres délivrés par des agents de l'État, alors que tous ces préalables n'ont pas été remplis. Et ça, c'est sujet à conflit avec les communautés locales. Donc, c'est comme l'a dit Monsieur Simplex, il y a lieu de coopérer. Je l'ai dit en amont, en utilisant un autre terme, que je recommande les dialogues entre les communautés locales, les pouvoirs publics et toutes les parties prenantes en vue de prévenir les conflits en amont et les résoudre au cas où ils survenaient quand même après la concession de ces contrats. Je crois que si tout le monde jouait sa partition, autorités coutumières, autorités étatiques, foncières et cadastrales, ainsi de suite, et concessionnaires, requérants concessionnaires, si chacun jouait sa partition dans le respect de certaines... d'une certaine éthique, on serait moins exposé à ces genres de
à ces genres de situations.
Alors pour les auditeurs qui pensent que il y a lieu que les terres de ces communautés fassent
soit couvert par des titres,
c'est quelque peu délicat. La question elle est délicate parce que entre les communautés elles-mêmes, les rapports de voisinage ne sont pas parfois excellents et que c'est difficile. Et le sens de l'honneur, on a vu aussi des gens qui aujourd'hui signent librement un acte, mais demain ils renient sa propre signature.
Les gens
ont perdu le sens de l'honneur.
De l'honneur,
oui. Les gens ont perdu le sens de l'honneur. Un écrit, oui, il peut exister, mais bon, son auteur, son signataire peut remettre en cause les comptes. Peut remettre en cause les clauses justement par manque de du sens de l'honneur. Je peux paraphraser un exemple. Lorsque nous écrivons nos curriculum vitae, nous disons je jure sur l'honneur, mais est-ce que nous avons vraiment cet honneur sur lequel nous jurons pour attester que ces renseignements sont vrais? Donc l'écrit c'est bien, mais comment l'a-t-on obtenu? Quel est son contenu? Ce contenu est-il sera-t-il accepté par son auteur à tout moment et en toutes circonstances? Je crois qu'on doit rentrer dans l'essence d'un peu d'éthique et de moralité dans tout ce que nous faisons, parce que il est difficilement réalisable de pouvoir dresser des titres pour les terres de toutes les communautés locales de notre pays. Là, c'est difficilement réalisable. Nous devons donc rester dans le sens de l'honneur, dans le sens de l'éthique. Et chacun doit jouer sa partition pour être responsable des actes qu'il pose. Lorsqu'on cède, on doit savoir faire les projections d'avenir et savoir qu'il y aura un besoin accru. Aujourd'hui, les conflits dans une certaine facette entre les anciens concessionnaires et qui se disent avoir du mal acquis ces concessions par des cessions auprès des communautés locales, c'est en fait ça. C'était tellement parfois modique. Vous verrez une communauté qui aliène 1000 hectares de terre au profit d'un concessionnaire belge, par exemple Van Tel, mais
Van en contrepartie
la communauté la communauté n'aura reçu qu'un sac de sel, quelques kilos de poissons salés. Et aujourd'hui, bon, les gens se réveillent, se disent non, mais c'était tellement léonais, tellement modique que pour nous, il y a lieu de revoir les choses. Et vous voyez des membres de ces communautés aller s'implanter dans ces concessions, y construire.
Oui, des forces.
Au plus grand, à la plus grande impuissance du concessionnaire.
Tout à fait.
Il n'a d'autre issue que de recourir à l'État. Et l'État lui-même aussi, s'il met un peu de pression, ça dégénère en conflit avec des armes blanches et consorts.
Oui.
Voilà pourquoi ça c'est délicat. Il faut dialoguer, il faut coopérer. faut dialoguer, il faut coopérer, il faut
merci, maître.
Respecter voilà. Les règles.
Merci maître Eric Vouvou, avocat au barreau du Congo Central. Excellente journée et à la prochaine.
Merci monsieur Joudy, merci à tous les auditeurs de Radio Capi.
Bien, monsieur Simplex Malembe, on va conclure avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on retient?
On retient que les conflits sont inhérents par rapport à l'existence humaine et que l'État congolais doit avoir une planification foncière. Et la planification foncière passe par une loi qui doit réglementer tout cela, une loi équilibrée qui tienne compte de ce que nous appelons l'équité et la justice foncière. On ne peut pas accepter qu'une seule personne au niveau national puisse avoir
acheter tout un village
pendant qu'il y a des gens qui n'ont pas de terres comme ça. Et lorsque vous faites la cartographie de nos terres congolaises, lorsque vous faites la juxtaposition, la sommation de certaines personnes qui existent dans ce pays, si vous la faites, il y a quelqu'un qui peut avoir déjà une seule province à lui-même. La province du Congo central, si vous prenez la concession, il a une concession telle part, il a une
donc si vous rassemblez tout ça, il a
une province
à lui.
Ce n'est pas de la justice foncière. Donc nous devons être veillés à ce qu'il y ait cette équité-là et veiller à ce que demain, nous puissions vivre en paix.
Il y a même des gens qui ont des hectares et des hectares, ils n'ont jamais construit, jamais fait des activités champêtres. Oui, c'est voilà. Comme ça, à l'abandon.
Ils thésaurisent, ça s'appelle la thésaurisation foncière.
Oui.
Et c'est, par exemple, la ville de Kinshasa, vous savez, les alentours, lorsque vous prenez la route Bandundu, vous prenez la route du Congo central, ça s'appelle ferme telle, mais il n'y a même pas une souris là-dedans.
Il n'y a rien dedans. Oui, oui. Même pas une fleur.
Ça s'appelle la spéculation foncière. Ils savent que d'ici 10 ans, la terre aura pris de la valeur. Et donc ils prennent de la terre comme ça partout là pour dire nous allons spéculer dans les jours à venir. Et donc nous pensons que le Parlement qui vient d'être installé maintenant devra traiter cette question là avec urgence. Si nous voulons que l'État, que les autres pays nous respectent, nous devons avoir des lois qui protègent nos terres. Et protéger nos terres, c'est protéger les communautés locales. Donc la CONAPAC, la Confédération nationale pour les producteurs agricoles du Congo, s'est bat pour que cette loi-là soit vite adoptée.
par le nouveau parlement qui vient
d'avoir son bureau.
D'accord.
D'ailleurs, nous félicitons les réélus qu'ils puissent prendre cette question-là, parce que toutes les guerres que nous avons maintenant. Toutes les guerres sont liées à la terre.
Voilà, et merci.
Donc, c'est une question de sécurité.
C'est une question vitale.
De sécurité.
D'accord.
Et de souveraineté nationale.
Monsieur Simplex Malembe, expert en gestion des conflits fonciers et chargé de plaidoyer à la CONAPAC, Confédération nationale des producteurs agricoles de la RDC. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup.